Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par les groupes angevins d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette émission consacrée aux droits humains. Pour animer cette émission, la fine équipe, Philippe et Sophie, bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver.
Et bonsoir à Pierre à la technique.
Bonsoir.
Alors, dans cette émission, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, d'abord, Sophie, tu vas nous remonter le moral en faisant le bilan des victoires pour les droits humains en 2021. Ensuite, nous entendrons Dimitri du collectif angevin Les Lucioles. Et puis, nous parlerons de l'actualité, bien sûr. Et nous finirons par l'agenda militant et culturel. Sophie, en janvier, c'est la période des vœux, mais aussi des bilans. Alors, tu as eu envie de nous parler des combats qu'Amnesty a menés et qui ont permis de remporter de belles victoires.
Oui, en effet, en 2021, des lois ont été réécrites. Des prisonnières et prisonniers d'opinion ont été libérés. Voici quelques exemples marquants. À Bahreïn, la peine de 6 mois de prison infligée à 4 enfants a été annulée une semaine après le déclenchement d'une action urgente. Au Burundi, Germain Rukuki est sorti de prison. Il avait été condamné à 32 ans de réclusion parce qu'il militait pour l'abolition de la torture. Et aussi en Guinée, le militant pour la démocratie Oumar Sylla a finalement retrouvé la liberté, ce qui a ouvert la voie à des dizaines d'autres militants politiques libérés dans la foulée.
Et en Égypte aussi, l'Égypte, le pays où il reste encore beaucoup d'opinions, de prisonniers, d'opinions, eh bien, il y a eu la libération de Solafa Magdi, une journaliste accusée à tort de diffuser de fausses informations, libérée également le médecin Ibrahim Badawi et le dentiste Ahmad Al-Dedoumi, après avoir passé 500 jours derrière les barreaux, tout simplement pour avoir dénoncé la mauvaise gestion de la crise du Covid. Incroyable.
Mais il reste toujours beaucoup de prisonniers d'opinion dans ce pays. Toutefois, en Arabie Saoudite, après 1001 jours de détention dans des conditions inhumaines, Loujain Al-Atloul est enfin sorti de prison. Un immense soulagement. Pour autant, rien ne pourra compenser la cruauté des traitements qu'elle a subis, ni l'injustice de son emprisonnement. Elle a été sanctionnée uniquement pour avoir osé défendre les droits des femmes de son pays. Depuis 2018, nous agissions pour la libération de 11 Saoudiennes. Eh bien, notre engagement collectif a porté ses fruits et elles sont désormais toutes sorties de prison.
Mais c'est formidable. Et qu'en est-il des luttes plus globales auprès de certains États?
Deux exemples. Après la publication d'un rapport et un travail de plaidoyer important, l'État japonais, le Bhoutan et le Royaume-Uni ont donné gratuitement plusieurs millions de doses de vaccins au Népal. Par ailleurs, le Parlement irakien a adopté la loi relative aux victimes yézidis, permettant à de nombreuses victimes de l'État islamique d'obtenir réparation. Parmi elles, des femmes et des jeunes filles ayant subi des violences sexuelles et des enfants qui avaient été enlevés.
Et en ce qui concerne la peine de mort,
27 États restent en faveur de la peine capitale aux États-Unis, mais la Virginie devient le premier État de l'ancien Sud confédéré à l'abolir. Le Sierra Leone est quant à lui le 23e pays africain abolitionniste.
Et alors en France, est-ce que tu peux nous dire s'il y a eu aussi des avancées?
Mais oui, la loi sur la PMA a été votée. C'est une avancée majeure après 2 ans de discussion au Parlement. La loi sur la bioéthique permet entre autres d'ouvrir la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires et aux couples de femmes. Cependant, les personnes transgenres sont exclues de ce texte et ne peuvent toujours pas recourir elles aussi à la PMA. Autre bonne nouvelle, le Conseil constitutionnel a censuré 7 articles de la loi Sécurité globale, l'article qui instaurait une surveillance généralisée par drone, ainsi que celui qui empêchait la diffusion d'images de la police, ont été censurés. C'est une victoire pour nos droits fondamentaux.
Tout à fait. Bah, en particulier, qu'en est-il pour le journaliste Taha Bouhafs, poursuivi pour outrage et rébellion envers les forces de l'ordre?
Il a été relaxé. Le tribunal de Créteil a décidé que les accusations n'étaient pas avérées, ce qui était démontré par les vidéos. Son procès illustre notamment les entraves dont peuvent être victimes ceux qui filment la police. Frédéric Guillaume, un militant syndical, a également été relaxé. Il était poursuivi pour avoir manifesté pacifiquement. Une décision que nous saluons, importante pour lui, mais aussi pour notre droit de manifester en France. Et enfin, vous connaissez tous aussi Cédric Herrou. Il est enfin tranquille après plus de 4 années de procédure. Un véritable acharnement judiciaire pour avoir simplement fait preuve d'humanité en aidant des personnes réfugiées et des migrants arrivant dans la vallée de la Roya.
Merci Sophie pour toutes ces bonnes nouvelles. Vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G101.5 FM et nous allons maintenant écouter l'interview de Dimitri. Dimitri représente le collectif angevin Les Lucioles. Je l'ai accueilli chez moi, on va écouter son interview. Bonjour Dimitri, merci d'être venu jusqu'à chez moi pour ce petit interview. Comment vas-tu ?
Bonjour, merci de m'accueillir, ça va très bien, merci à toi.
Donc tu es là pour représenter le collectif Les Lucioles.
Absolument, oui. Donc je suis Dimitri, mes pronoms sont il et les accords au masculin à l'oral. Et donc oui, je suis trésorier du collectif Luciole pour l'année 2021-2022.
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce collectif ?
Alors on est une association, donc on s'appelle collectif, mais on est maintenant une association depuis 3 ans, depuis novembre 2018. Ça fait 4 ans peut-être maintenant. Nous sommes l'association des étudiants et du personnel LGBTI+, sur l'Université d'Angers, mais pas que. L'Université d'Angers, elle englobe aussi Cholet, elle englobe aussi Saumur. Bon, le fait est qu'on n'a pas de membres en réalité à Saumur, mais on en a à Cholet. On est une petite trentaine maintenant à Angers. Et donc, on fait des actions de manière... Alors, j'avais tendance à dire de manière mensuelle, mais en fait, on a tellement plein de projets que finalement, c'est plus régulier que ça. Donc on fait régulièrement, on va dire, des actions sur le campus universitaire, mais pas que. On a aussi d'autres partenariats, par exemple avec vous, pour organiser des actions de sensibilisation aux questions de genre, aux questions de sexe, aux questions d'orientation sexuelle, d'identité de genre. Mais on veut aussi avoir une perspective intersectionnelle et donc toucher toutes les personnes qui sont opprimées, toutes les personnes qui sont discriminées en réalité.
Alors, je suis allée voir votre site. Tu m'as dit qu'il était en train d'être fait un petit peu, voilà, ou réactualisé. Il n'empêche que j'ai quand même noté 2 missions qui m'ont semblé super intéressantes, importantes. Une première mission, je dirais plus de liaison avec les gens, l'administration, le doyen de l'université, où vous avez des revendications, des demandes. Et puis, une mission d'accueil d'étudiants, d'étudiantes qui viennent voir parce qu'ils ont peut-être des problématiques, ils ont besoin de parler ou ils ont besoin d'aide, etc. C'est bien ça ?
Oui, absolument. Pour illustrer un petit peu chacune de ces missions, par exemple, dans le relais avec l'administration, si un étudiant a une requête ou à se plaindre de quelque chose, il peut passer par nous. Et nous, dans ces cas-là, on sait à qui on doit s'adresser, à quelle commission, à quelle administration, pour relayer sa demande. Exemple typique, il y a 2-3 semaines maintenant, on a eu un étudiant qui souhaitait avoir accès à des toilettes non genrées. Il se demandait s'il y avait des toilettes non genrées dans l'université, donc c'est-à-dire qui ne sont pas exclusivement pour les hommes ou exclusivement pour les femmes. Et en fait, il a été très mal reçu à l'accueil et donc il s'en est plaint à nous pour savoir s'il était possible de faire quelque chose. Donc le collectif a été à l'accueil de la faculté de Belbeil, puisque c'est là que ça se passait. On a parlé en fait avec la personne qui avait tenu ses propos dont je passerai la teneur. Oui, exactement, désagréable. Et on a fait de la sensibilisation, voilà, tout bêtement. Et donc maintenant, la personne sait que, il y a des personnes qui ne souhaitent pas spécialement aller dans les toilettes pour femmes ou aller dans les toilettes pour hommes parce que leur expression de genre ne correspond pas, en fait, au genre auquel elles s'assignent dans leur tête. Et donc, il y a une confusion, quoi. Donc c'est pour ça que, par exemple, là, on est en train de construire avec l'université un projet de toilettes non genrées. Voilà.
Donc pour Belbeil ou pour je sais pas comment ça s'appelle, tous les différentes universités dans Angers.
Ouais, non, pour toutes les composantes. Alors il y a des toilettes qui sont déjà bien faites, par exemple, il n'y a pas d'urinoir et donc dans ces cas-là, il n'y a même pas de travaux à faire, par exemple. Je parle dans les toilettes pour hommes du coup. Donc là, dans pas mal de toilettes en fait à Belbeil et à Saint-Serge et dans les bibliothèques, il suffit juste de retirer le panneau. Et il y a rien de plus compliqué que ça à faire. C'est tout. Des fois, il faut faire des travaux supplémentaires et donc ça complique un petit peu la chose.
Oui, tout simplement. Mais je crois qu'il y a une autre revendication au sujet des prénoms, non ?
Oui, alors absolument. Toujours dans le volet de la première mission, il est possible à l'université de faire changer son prénom sans que, en fait, il y ait eu un changement fait à l'état civil. Donc, en réalité, ce prénom-là, le prénom qui vous a été assigné à la naissance, eh ben, vous pouvez choisir de complètement l'oublier le temps de l'université et d'utiliser le prénom que vous voulez, votre prénom d'usage. Et donc, sur les listes de diffusion, sur les listes d'appels, sur votre carte étudiante, bref, quasiment, et je vais expliquer pourquoi quasiment partout, il y aura le prénom que vous aurez choisi et pas que on vous aura imposé à la naissance. L'exception est que seulement sur les diplômes.
D'accord.
Le diplôme final, pour des raisons de fraude, en fait, de suspicion de fraude, eh ben, on ne peut pas changer le prénom et ce sera votre prénom de naissance qui sera inscrit. Voilà.
Et ça, c'est en cours de demande ou c'est déjà acté ?
Pas du tout, ça c'est déjà acté. On sait que depuis 2018, il y a une trentaine d'étudiants qui ont fait la demande du prénom d'usage. Et justement, c'est très d'actualité puisque tu en parles, puisque là, ça fait 3 ans et on va avoir des retours enfin pour savoir si cette procédure se passe bien. Parce qu'on sait qu'elle est efficace, qu'elle est rapide. Aujourd'hui, bon, maintenant en 2018, quand on l'avait mis en place, il y avait des petits freins au niveau administratif parce que c'était un procédé nouveau et le personnel administratif n'était pas spécialement sensibilisé à la question. Maintenant, ça se fait plus facilement et on cherche à avoir un retour de ces personnes-là, puisque outre le prénom, il est possible aussi de changer son genre sur sa carte enfin, ce n'est pas écrit sur la carte étudiante, mais sur les listes d'appels. Sur certains documents de l'administration.
Il y a écrit monsieur ou madame.
Exactement. Et donc ça, c'est possible de le faire changer aussi.
D'accord, sans qu'il y ait un papier officiel, etc., etc.
Ouais, absolument. D'accord. Sans qu'aucun changement à l'état civil n'a été fait.
D'accord. Et ça se fait dès l'inscription à l'université. C'est 2 lignes en plus peut-être sur le papier d'inscription. Puis après, c'est fini, on ne vous embête plus. Voilà.
Ça peut être fait dès l'inscription à la fac. Ça peut être fait en plein milieu d'année.
D'accord.
Ça peut être fait maintenant, ça peut être fait demain, ça peut être fait après-demain. Il suffit juste de remplir trois petites cases sur Internet. Vous tapez prénom d'usage Université d'Angers sur votre barre Google ou Ecosia. Et vous avez tout de suite le formulaire à remplir et c'est tout.
D'accord.
Et ça,
c'est quelque chose qui se fait aussi dans d'autres universités. Enfin, je dirais maintenant, c'est normal, quoi.
Ça ne se fait pas du tout partout. Au
ah
contraire,
bon
non. Là, ça a été la première action en tant qu'association du collectif Luciole. Mais il y a plein d'universités, bien au contraire, où ça n'existe pas.
Ah.
Voilà. Mais en réalité, c'est pas quelque chose de compliqué à mettre en place. C'est bien dommage.
C'est bien dommage. Est-ce que le doyen actuel, ça se passe plutôt bien avec lui ou pas vraiment?
Tout dépend de quelle composante. Mais on commence à être de mieux en mieux vu en vrai à l'université, puisque c'est plus très à la mode, je crois, d'être anti-LGBT. Donc,
tu crois que c'est une question de mode, toi?
dans la pensée des gens, oui. Autant au début, c'était pas trop le cas à notre création, autant maintenant, on a des soutiens qui sont les bienvenus, bien au contraire.
Voilà, formidable. Et puis donc, l'autre mission, c'est l'aide pour des étudiants, des étudiantes que peut-être qui subissent une forme de harcèlement, qui sont pas à l'aise ou qui ont besoin d'information, c'est ça?
Bah. Au-delà de ça, en fait, on se veut être un groupe, et on l'est, je crois, j'espère, qui accueille les personnes LGBT qui ont envie de rencontrer, en fait, tout simplement d'autres personnes LGBT. En fait, on a créé un espace safe au sein de la fac pour les personnes queer qui ont envie de rencontrer d'autres personnes queer, qui n'ont pas forcément des difficultés d'évolution dans leur sexualité ou dans leur identité de genre, mais en fait qui ont envie de passer du bon temps avec des personnes comme nous. Et il y a ce volet-là, être entre nous et passer des bons moments, et il y a aussi le volet faire de l'éducation, faire de la sensibilisation, tout un volet militant aussi.
Ouais. Ça fait combien de personnes dans le collectif?
On
est 30.
Ouais, on est une trentaine, je pense, sur Angers, et puis on est une petite dizaine à Cholet.
On va parler maintenant peut-être des événements. Alors, moi, j'ai connu le collectif Les Lucioles lors des préparations pour la Pride. Ça fait partie des événements importants, je suppose, pour vous, mais il y en a peut-être d'autres.
Oui, bien sûr, la Pride est essentielle. C'est le moment dans l'année où les personnes LGBT peuvent s'approprier l'espace public sans craindre la moindre répercussion. A priori, bien sûr, il y a toujours des débordements. Mais oui, la Pride, c'est un moment important pour les Lucioles, d'autant plus que nous, on est l'association sur l'université d'Angers, donc on touche les gens de plus de 18 ans. Bon, quand on est à la Pride, en fait, on voit que il y a beaucoup de personnes mineures, de personnes qui sont au collège ou de personnes qui sont encore au lycée, qui viennent nous voir, viennent discuter avec nous, font notre connaissance avant d'entrer à l'université et sont ravis de savoir que bah, quand elles rentreront à l'université, elles ne sont pas forcément seules et qu'il y aura déjà un groupe comme nous pour les accueillir.
Bien sûr.
Donc c'est essentiel pour ça, pour toucher un public plus jeune encore, la Pride. Et après, est-ce qu'on fait d'autres événements, c'est ça ?
Pourquoi pas, oui. Ouais.
Oui, bah alors du coup, pour donner des exemples d'actions, en décembre, on a organisé des journées de sensibilisation aux questions de santé et de sexualité. On en a fait une à Cholet avec le service de santé universitaire notamment, et Amnesty aussi était là d'ailleurs. Mmh. Et on a fait ça aussi le lendemain à la faculté de Saint-Serge en droit, économie, gestion, où on était avec le planning familial et les Noxambules. Et l'après-midi de cette journée, on a organisé une conférence sur la transidentité de manière générale, où c'était une personne trans qui venait de parler de son parcours. Et comme cette personne était en médecine, eh bien, la conférence était majoritairement à destination des personnes en médecine, des étudiants en médecine. Mais on a ramené pas mal de gens et c'était l'occasion du coup de faire une action de sensibilisation de ce type. D'éduquer un petit peu à ce qu'est la transidentité, du moins un versant de la transidentité, puisque c'était son témoignage à lui. On a fait ça. En mars, on va organiser, on va ériger ce que j'appelle moi un mur des insultes, où en fait il s'agira d'arrêter les étudiants, de leur demander à quelle insulte ils pensent là immédiatement à chaud. Ils diront cette insulte, ils l'inscriront sur une espèce de grand support blanc qui sera donc sur un mur, et ça sera l'occasion de discuter de cette insulte. Qu'est-ce qu'elle voulait dire auparavant, qu'est-ce qu'elle veut dire aujourd'hui, et en fait l'impact qu'elle peut avoir. Est-ce qu'elle est discriminante, est-ce qu'elle est oppressante, et si oui, dans ces cas-là, est-ce qu'on peut la remplacer par une insulte qui peut être peut-être plus inclusive?
Formidable, les insultes inclusives, bah, bien sûr.
Ouais, parce qu'il en existe plein en réalité.
D'accord, j'ose pas te les demander parce que bon, on a une heure de grande écoute, mais je te les ferai tout à l'heure.
C'est des insultes polies, par exemple. Nigo ou au fond de Ben, par exemple, c'est des insultes qui sont tout à fait.
D'accord. Je retire, je note. On arrive au bout de notre temps d'interview. Okay. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter, soit pour parce qu'on est étudiant-étudiante ou pour faire partie du collectif? Vas-y, dis-nous tout.
On est actif sur Instagram notamment. On a notre page internet, du coup, c'est un blog WordPress qu'on n'anime pas beaucoup, mais c'est possible de nous contacter quand même par ici, puisque ça nous renvoie vers notre boîte mail. Notre mail, il est facilement trouvable sur notre page Instagram ou notre page Facebook. C'est collectif luciole ua@gmail.com. Et après, vous tombez directement sur moi qui vous répond très gentiment et s'enquiert de votre demande.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Ouais, c'était vraiment, vraiment un chouette échange avec Dimitri. Et on se retrouve tout de suite après une pause musicale.
Shut up. high shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, bear rapping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha, 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 ha. We gon' ghost town, this Motown with your sound. You in the blink, you gon' bite the dust. Can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chair the head. Watch the way I navigate. Ha, 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 ha.
Et vous venez d'entendre Feel Good de Gorillaz. Tu connaissais, Sophie ?
Non, pas du tout.
Non, moi non plus.
Et vous êtes toujours sur Radio G 101.5 FM et c'est le moment des actualités des droits humains.
Rami Shaat, détenu en Égypte depuis juillet 2019, est sorti enfin de prison samedi dernier. Le militant palestinien a été contraint de renoncer à sa nationalité égyptienne et après plus de 900 jours de détention, il est arrivé en France. Rami est une figure de la révolution égyptienne de 2011 et le coordinateur en Égypte du mouvement BDS, Boycott, Désinvestissement, Sanctions, prônant le boycott d'Israël dans la lutte contre l'occupation des territoires palestiniens. Il était accusé d'avoir voulu fomenter des troubles contre l'État. L'Égypte compte encore plus de 60 000 détenus d'opinion.
Incroyable. La Cour suprême russe a annoncé mardi 28 décembre la liquidation de l'ONG Memorial, pilier de la lutte contre les répressions dans la Russie contemporaine et gardienne de la mémoire des victimes du Goulag. Cette décision survient en conclusion d'une année marquée par la répression croissante des personnes, ONG et médias, perçues comme critiques à l'égard du président Vladimir Poutine, au pouvoir depuis bientôt 22 ans.
22 ans.
Fondée au crépuscule de l'URSS par des dissidents dont le prix Nobel de la paix Andrei Sakharov, Memorial, avait pour mission de mettre en lumière les millions de victimes des crimes soviétiques.
Au Japon maintenant, où a été exécuté le mardi 21 décembre, pour la première fois depuis 2 ans, 3 condamnés à mort. Le Japon avait procédé à 3 exécutions en 2019 et 15 en 2018, dont les 13 membres de la secte Aum. Je ne sais pas si vous vous souvenez, oui. Cette secte impliquée dans un attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995. Le soutien de la population nippone à la peine capitale reste fort, malgré les critiques venues de l'étranger, en particulier des organisations de défense des droits de l'homme. Le Japon compte actuellement plus de 100 condamnés à mort. Et de longues années souvent s'écoulent entre l'énoncé de la sentence et l'exécution par pendaison. Et en plus, les détenus sont habituellement prévenus seulement quelques heures avant leur exécution.
Épouvantable. Au Kazakhstan, le président est confronté à un soulèvement populaire sans précédent. Il a demandé l'intervention de troupes de pays alliés menées par l'armée russe. Ce qui avait débuté le 2 janvier dans une ville de l'ouest du pays comme un mouvement de colère contre le doublement des prix du carburant s'est rapidement étendu au reste du pays et a dégénéré en une violente contestation du régime, de sa gestion de l'économie basée sur l'exploitation du gaz et du pétrole et de sa corruption. Le président assure avoir rétabli l'ordre au prix d'une répression sanglante avec l'aide de Moscou en prétextant une agression terroriste. Poutine peut espérer accroître ainsi son emprise sur une partie de cet empire disparu qu'il regrette tant. Après l'Arménie et la Biélorussie, il contrôlerait aussi le Kazakhstan.
Au Soudan, les manifestations se poursuivent, la répression aussi. 3 manifestants ont été tués par balle jeudi 6 janvier dans la capitale de Khartoum et sa banlieue où, comme dans le reste du pays, des milliers de Soudanais se sont de nouveau rassemblés pour protester contre le pouvoir militaire. Au total, depuis le coup d'État d'octobre 2021, la répression des manifestations contre l'armée a fait 60 morts et des centaines de blessés. Les militaires sont seuls aux commandes depuis la démission, le 2 janvier, du Premier ministre, visage civil de la transition lancée après l'éviction en 2019 du général al-Bashir par l'armée sous la pression de la rue, faisant craindre un retour à la dictature.
Parlons maintenant du journaliste français Olivier Dubois, le seul otage français connu, correspondant au Mali de Libération Jeune Afrique et Le Point Afrique. Il avait été kidnappé, kidnappé le 8 avril 2021 à Gao par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. C'est une organisation djihadiste liée à Al-Qaïda. Depuis, une seule vidéo de lui a été rendue publique, diffusée le 5 mai sur les réseaux sociaux. Elle montrait Olivier qui confirmait son enlèvement. eh bien, l'absence de nouvelles a poussé sa famille à lancer le 6 janvier une pétition pour demander sa libération. Il faut garder espoir car plusieurs otages étrangers au Sahel ont été récemment libérés.
En France, dès les premiers jours de 2022, 4 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Pourtant, la loi de 2019 a acté la généralisation des bracelets anti-rapprochement. La fixation à 6 jours du délai maximum de délivrance des ordonnances et la possibilité pour les juges de retirer l'autorité parentale à un homme violent. D'autres propositions font aussi relativement consensus. L'amélioration de l'accueil des femmes victimes dans les commissariats ou le renforcement de leur protection. Mais la question des moyens reste centrale. Les associations féministes réclament l'allocation d'un milliard d'euros à la lutte contre les violences faites aux femmes, comme en Espagne. La généralisation des bracelets anti-rapprochement, elle aussi, se fait attendre. Seulement 460 seraient actifs en ce moment.
Jeudi dernier, Chantal, une autre militante d'Amnesty Angers, et moi-même, nous avons rencontré à notre demande la députée LREM de Maine-et-Loire, Stella Dupont. Nous souhaitions l'alerter sur les multiples atteintes au droit de manifester, observées depuis novembre 2018 notamment. Nous lui avons remis à cette occasion un rapport détaillé et accablant de notre organisation intitulé « Arrêtez pour avoir manifesté ». Entre 2018 et 2020, les forces de l'ordre et le ministère public ont instrumentalisé le droit pénal et se sont appuyés sur des lois très générales pour arrêter et poursuivre arbitrairement des milliers de manifestants qui n'avaient commis aucun acte violent.
90 jours, vous devez être au courant. Eh bien, 90 jours, c'est le temps qu'il nous reste avant le premier tour de l'élection présidentielle. 90 jours de campagne pour éviter que les débats ne passent à côté de véritables enjeux pour notre avenir. Eh bien, sachez que 60 organisations nationales, des acteurs majeurs dans la protection de l'environnement, la lutte contre la pauvreté, le soutien aux migrants, le monde étudiant, le monde du travail, l'éducation populaire, l'économie sociale et solidaire, eh bien, ces organisations se sont toutes retrouvées pour réaliser le pacte du pouvoir de vivre. Cette alliance présente 90 propositions. Allez voir sur leur site Pacte du pouvoir de vivre sans espace. Et nous sommes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM et c'est le temps de notre agenda militant et culturel.
Demain, vendredi 21 janvier à 20h à la MPT Mon Plaisir, la pièce de théâtre de Goldoni Les Rustres sera présentée en faveur de l'organisation Le Greffe, groupement des enseignants de français.
Merci. Samedi 22 janvier, soyons sur la place du ralliement à 15h avec le mouvement de la paix pour fêter le premier anniversaire de l'entrée en vigueur du traité d'interdiction des armes nucléaires. Oui. Et puis pourquoi pas, à 16h30, on se retrouve tous au Jardin du Mail pour une manifestation pour le logement.
D'accord. Le 28 et 29 janvier, à la Bourse du Travail, le week-end internationaliste. Vendredi, il y aura une rencontre présentation avec des autrices de Nous vous écrivons depuis la Révolution. Ce sont des récits de femmes internationalistes au Rojava et samedi, projection du documentaire Fedaïn, le combat de Georges Abdallah en présence du collectif Vacarme.
Et pensez à déjà réserver pour le concert pour la Palestine proposé par Al Kamandjati le samedi 24 février.
Eh bien, je crois, il est déjà presque 19h30, j'entends le générique. Le temps de conclure cette émission et de remercier Dimitri pour sa présentation du collectif angevin Les Lucioles. Si les insultes inclusives vous intéressent, eh bien, lisez le livre d'Alice Felzer et de Laetitia Abadestieu. Cela s'appelle Garce, hystérique et autres joyeusetés. Tout un programme. Et n'hésitez pas à réécouter cette émission en replay sur le site www.radio-g.fr. Vous pouvez également nous rendre visite sur Facebook avec la page Amnesty Angers. Allez, bonne soirée et vivons joyeux.
À bientôt.
Bonsoir.